C'est le message que le Premier ministre et le gouvernement cherchent à faire passer. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant le fait qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2011, à un moment où l'économie était au plus mal, en raison du bilan du gouvernement précédent. Ils sont arrivés à un moment où l'Irlande avait en quelque sorte perdu sa souveraineté économique, puisque c'était la Troïka qui dictait, si l'on veut, les mesures à prendre. Et donc le gouvernement met en avant le fait que l'Irlande a retrouvé sa souveraineté économique depuis la fin de l'année 2013. L'Irlande est capable de se financer elle-même sur les marchés et donc les mesures d'austérité ont été graduellement relaxées. Donc le message du gouvernement c'est nous avons fait l'essentiel du travail mais ce n'est pas fini, il faut continuer et donc il sollicite un second mandat auprès des électeurs.
Mais malgré de bons chiffres économiques, il y a un risque que les électeurs se détournent du parti au pouvoir du Premier ministre Enda Kenny. Pourquoi ?
Plusieurs raisons. D'une part, le gouvernement, pour rétablir les comptes, a introduit beaucoup d'impôts nouveaux, des cotisations sociales, des impôts pour les cotisations au système de santé, la facturation de l'eau, hein, qui était gratuite et qui est désormais est payante. Et tout cela a été mal perçu par un certain nombre d'électeurs parce que dans le même temps, le gouvernement n'a pas réussi à faire payer les banquiers, les financiers qui étaient malgré tout responsables, si vous voulez, de la crise bancaire et des difficultés connues par l'Irlande. Donc maintenant, les choses vont un petit peu mieux, mais il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme parce que dans beaucoup de petites villes, dans beaucoup de campagnes irlandaises, la situation des gens ne s'est pas améliorée de manière sensible. Et lorsqu'on regarde par exemple les chiffres du chômage, la baisse est tout à fait spectaculaire, mais il faut comprendre que cette baisse s'explique aussi par une immigration très importante de beaucoup de jeunes gens. On parle de jeunes diplômés, de personnes qui ont fini leurs études et qui se rendant compte qu'elles n'avaient que très peu de perspectives en Irlande, ont choisi de partir aux États-Unis, en Australie, en Angleterre ou ailleurs. Et donc pour les parents, pour les familles qui sont restées au pays, le discours selon lequel le chômage a baissé ne passe pas très bien.
Et quelle alternative propose l'opposition, le principal parti de gauche nationaliste, le Sinn Féin ?
En termes de mesures concrètes, le programme n'est pas toujours très convaincant. Il y a par exemple la proposition de renégocier la dette irlandaise auprès des partenaires européens. Il y a la proposition de recapitaliser certaines banques irlandaises par le biais du mécanisme de stabilité, etc. Bon, ce serait une approche rétroactive, de là aussi on voit mal les partenaires européens accepter. Il y a les propositions de nationalisation d'entreprises, il y a des propositions pour maintenir la gratuité de l'eau. Donc pour financer un tel budget, ce sera certainement compliqué. Mais je crois que le Sinn Féin cherche avant tout à se positionner comme le défenseur des classes les plus modestes, hein, celles qui ont le plus souffert et qui sont encore le plus mal en point aujourd'hui.
Comment expliquer qu'en Irlande, aucun parti anti-establishment ne soit né comme en Espagne ou comme en Grèce notamment ?
C'est une spécificité irlandaise, hein. Il n'y a pas eu de formation nouvelle cherchant à briser le cadre politique traditionnel. Je crois qu'il y avait aussi une certaine conscience chez beaucoup d'Irlandais que pendant les années folles, hein, les années du tigre celtique, lorsque la croissance s'était emballée, il y avait cette conscience chez beaucoup d'Irlandais qu'ils avaient sans doute exagéré, qu'ils avaient été trop loin. Et plutôt que d'accuser un bouc émissaire ou d'autres personnes, il y avait une prise de conscience chez beaucoup d'entre eux que, bon, ils avaient exagéré et c'était à eux de payer quelque sorte. Il y avait une sorte de résignation ou d'acceptation peut-être qu'il fallait corriger le tir et rectifier les choses.
Malgré la crise économique, malgré le plan d'austérité, les Irlandais, eh bien, sont restés donc européistes.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que même si on regarde les formations d'extrême-gauche, il en existe. Ce sont des petites formations hein, qui peuvent espérer entre 2, 3, 4% des suffrages, sont critiques à l'égard de l'Union européenne, mais ne proposent pas du tout une sortie de l'Union européenne ou ni même de la zone euro. Pourquoi ? Ben parce que, bon, il y a cette longue histoire d'une bonne intégration de l'Irlande dans l'Union européenne. Il y a aussi, c'est ce que je disais, c'est l'approche un petit peu pragmatique. Il y a cette conscience aiguë qu'un petit pays comme l'Irlande a tout à gagner à rester au sein de l'Union européenne. Parce que si l'Irlande se retrouvait en dehors, elle serait très vulnérable face aux fluctuations, aux turbulences internationales. Donc, européiste, oui, l'Irlande l'est encore, mais disons, c'est un sentiment qui est beaucoup plus pragmatique et peut-être un petit peu désillusionné aujourd'hui.